Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche, Cases et Bulles, où, avec Christol Seyek, nous allons vous parler de l'actualité de la bande dessinée. Aujourd'hui, ce sont des bandes dessinées qui sont vraiment variées, d'une part parce qu'elles ne sont pas toutes excellentes, et d'autre part parce que, vraiment, c'est très, très mêlé. On pourrait dire qu'il s'agisse de bandes dessinées où on fait parler des personnages historiques, où on rencontre du réel. Mais vous verrez que ce réel, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 2027, on anticipe, est quand même un peu vrillé. Et c'est justement ce qui fait l'intérêt de cette sélection. Bonjour Christol.
Bonjour Richard.
Alors, la première bande dessinée dont on va parler, c'est comment dire, la Mort Blanche, ou plutôt Mort Blanche tout court, qui est une bande dessinée qui met en avant un des héros de la guerre contre les Russes qu'ont mené les Finlandais.
Exactement, commençons par faire parler, comme tu le disais, Simon Haya. J'ignorais son nom et pourtant c'est considéré aujourd'hui encore comme le meilleur tireur d'élite de tous les temps. En une centaine de jours, hein, en 3 mois, il a abattu à peu près 500 soldats soviétiques. Il fallait l'imaginer au nord de la Finlande, caché sous une couche de neige. On voyait le fusil dépasser et il éliminait les uns après les autres tous les soldats et officiers russes qu'il voyait s'approcher. Alors, on pourrait croire que cette bande dessinée est un récit de guerre. Pas tout à fait, puisque la bande dessinée alterne les moments de guerre où on voit donc ce tireur d'élite abattre les uns après les autres les soldats soviétiques, mais également la vie civile de cet être humain. Et je le dis être humain parce qu'on va découvrir vraiment sa psychologie. Et donc, on découvre toute sa jeunesse où son père l'amène à la chasse. Et son père est très dur avec lui parce que c'est un piètre chasseur. Il n'arrive pas à aligner le moindre animal à quatre pattes pendant la chasse. Et son père le bat. Rien que pour cette raison, il s'endurcit. Au moment où l'URSS envahit la Finlande, le jeune Riku s'engage comme ses frères contre l'envahisseur soviétique. On lui met un fusil entre les mains, et là, il se met à éliminer avec une aisance déconcertante tous les soldats soviétiques. Ce que j'aurais aimé, c'est que le scénariste Thierry Toussaint se contente de décrire la vie réelle de ce héros, puisque enfin, la période suivante 1945 est très intéressante. Il a été blessé, une balle a traversé son visage, vraiment un déformé par la guerre. Et puis après, il est devenu chasseur, mais on aurait pu découvrir l'histoire d'un gueule cassé, non pas après 1918, mais après 1945. Au lieu de cela, tenez-vous bien, le scénariste imagine que ce héros, Sima Aya, a au lieu de retourner à la vie civile, ce qui est la vraie histoire, reste dans les neiges au nord de la Finlande, a continué d'éliminer des soldats soviétiques, et ceci jusqu'à une trentaine d'années plus tard. Et là, le scénariste s'inspire du parcours d'un autre soldat, japonais celui-ci, qui s'appelait Hiro Onoda, qui a survécu dans les Philippines après la guerre du Pacifique, croyant que la guerre n'était pas finie. Jusqu'en 1974, il défendait sa petite île avec deux autres soldats. Et bon, ça peut paraître amusant, mais j'aurais préféré ne pas travestir l'histoire, dès lors que le parcours de ce soldat finlandais, à elle seule, pouvait nourrir une bande dessinée. Ce qui m'a plu dans cette BD, c'est le ton dramatique, et même la dernière partie où on imagine un parcours différent de l'histoire réelle, me fait penser un peu au récit dramatique de Dimitri. Et donc, quand je l'ai lu, j'ai pu vraiment penser à l'art de Dimitri. Mais ce n'est pas Dimitri qui fait le scénario ni le dessin. Il nous a quittés il y a à peu près 5-10 ans. Le dessin est réalisé par un Espagnol, Iñaki Oldago. Tu avais lu, je crois, tu avais commenté sa bande dessinée NP Police Militaire, qui raconterait les exactions de la police militaire américaine en 1945
Enfin,
après le
qui racontait
débarquement.
la manière dont la police américaine traquait les exactions des soldats américains en Normandie.
Voilà, ça me revient. Eh bien, c'est ce même dessinateur qui a un joli trait surréaliste, léché, fin. J'aime bien son dessin. Bon, c'est un récit de guerre aussi, donc il dessine bien les uniformes, les armes de ce conflit. C'est une histoire assez poignante. Alors, on peut être déconcerté peut-être par la fin, mais on passe un agréable moment avec cette bande dessinée qui est éditée chez Bambou, aux éditions Grand Angle. Encore un petit regret, depuis à peu près un an, chez Bambou, chez Grand Angle. il y a une nouvelle collection destinée aux héros de guerre. Eh bien, il aurait peut-être fallu insérer ce titre dans cette collection et ne pas travestir l'histoire.
C'est amusant parce que je crois que l'un des tout premiers titres justement chez Grand Angle consacré aux héros de guerre est un titre de Julien Hervieux qui remettait en scène un héros de la guerre de 14-18 dont il avait déjà parlé dans son petit théâtre des opérations et donc on avait droit à la version en 48 pages et en bande dessinée réaliste de l'un des épisodes du petit théâtre des opérations qui met en scène des héros hors normes. Et à chaque fois, l'histoire est vraie, et indépendamment de la manière un peu farcesque dont elle est racontée, l'histoire est tout à fait exacte. D'ailleurs, il y a l'histoire aussi dans ce petit tas des opérations d'un soldat finlandais qui marave sérieusement les soviétiques. Et je trouve que la manière dont, dans Mort Blanche, on éprouve le besoin de mêler deux histoires, de faire du héros anti-soviétique, un soldat qui devient malade par la guerre, et en plus de nous coller une tartine, mais aussi indigeste qu'un film de Disney dans ses 3 premiers quarts d'heure, pour expliquer que le papa était méchant, etc. Il y a une espèce de psychologisation absolument débile, et surtout, une fois plus, on passe complètement à côté de la véritable histoire du bonhomme, et c'est vraiment très très dommage. Voilà. Je conseille d'ailleurs à ceux que ça amuse de lire le Valeurs Actuelles de cette semaine où il y a Olivier Molin qui raconte un très bon roman qui a été adapté au cinéma avec un chasseur qui lui aussi est un guerrier qui est blessé et comment est-ce que ça marche. Dans un cas, on a un véritable roman. Dans les autres cas, on a de véritables histoires avec des héros absolument formidables. Et là, on a une bande dessinée qui s'essaye à la fois raconter une histoire vraie, mais la psychologiser en dépit du bon sens, et à malgré tout faire en sorte de montrer qu'un patriote tend vers la folie. J'ai trouvé qu'il y avait un côté un peu, comment dire, gauchiste, pour le dire de cette manière-là, dans cette bande dessinée, qui, à côté de ça, tu as parfaitement raison de le souligner, est très jolie, très bien faite, avec de beaux dessins. Bon, voilà. On va quand même la recommander. Et je passe tout de suite à Victor Hugo, La Bouche d'ombre, qui est une bande dessinée des éditions Anspach. Alors les éditions Anspach, on les aime bien parce que ils ont une programmation courageuse, ils font des choix qui sont souvent audacieux. Et là, il y a cette bande dessinée qui est scénarisée par Rodolphe. Alors Rodolphe est un immense scénariste qui a, comment dire, scénarisé tout et n'importe quoi, avec notamment toute une série de science-fiction, Kenya, Namibia, Amazonie, avec Léo. Et là, on est dans son nouvel, si j'ose dire, intérêt, centre d'intérêt, qui est le spiritisme. Et on sent chez Rodolphe, voilà, qui a en plus un côté un peu, comment dire, militant, anticlérical, un goût pour la science parallèle qui se développe peu à peu à force d'aller chercher dans les recoins de l'histoire une manière de la rectifier, c'est-à-dire d'expliquer à quel point la féodalité et le clergé sont des facteurs obscurantistes. Et il a fini, si j'ose dire, par basculer du côté du spiritisme. Et ça nouveau des albums très intéressants. Il y avait notamment Marie et les esprits, centré sur la manière dont Pierre et Marie Curie en fait s'intéressaient au spiritisme. Et l'album était tout à fait surprenant parce que ces deux scientifiques avaient effectivement un goût pour les sciences occultes qu'évidemment on n'imagine pas chez ceux qui découvrent le radium et inventent la radiothérapie. Et avec Victor Hugo et la bouche d'ombre, là, c'est la manière dont Victor Hugo lui-même, suite à la mort de sa fille, s'intéresse au spiritisme et plonge en fait dans ce monde des ectoplasmes, des tables tournantes, des êtres qui ont disparu et qui pourtant existent. Et on sent chez Rodolphe le goût de raconter ces histoires en s'inspirant d'ailleurs des écrits de Victor Hugo lui-même, de la manière dont Victor Hugo racontait la chose, dont ceux qui participaient à ces séances de spiritisme le racontaient. Avec une mise en scène très dramatique, un côté feuilleton 19e assez aimable. Bon, mais même si on reste évidemment assez sceptique sur ce que Victor Hugo voyait véritablement, sur la manière dont on était à la limite de l'hallucination collective lors de ces séances de spiritisme, et bien sûr avec un côté pénibilissime qui est l'exaltation de Victor Hugo voilà, où on nous explique à quel point Victor Hugo était un type absolument admirable de A à Z, en envoyant quelques pics au passage à l'Église catholique, puisque la croix avait justement titré que Victor Hugo était devenu timbré. Et donc là, la bande dessinée se termine de cette manière-là. On n'est pas obligé vraiment d'adhérer au projet de Rodolphe, mais en revanche, la façon dont il met en scène Victor Hugo dans cette partie pas du tout rationaliste, pas du tout scientifique, mais au contraire complètement romantique au sens le plus 19e du terme, y compris dans ses outrances, et d'ailleurs parfaitement servi par le dessin d'Olivier Roman, qui est un vétéran de la bande dessinée, qui lui aussi a une œuvre abondante. Il est. Enfin voilà, il y a plusieurs scènes où on a l'impression de se retrouver chez un peintre pompier qui serait en train de représenter une séance de spiritisme. On est à la limite de la peinture de genre pour certaines des planches et certaines des cases, avec aussi d'ailleurs une exaltation de la nature assez formidable, avec des cases très très réussies et même des grandes planches très réussies maritimes, qui sont vraiment l'un des intérêts de cette bande dessinée. Voilà. C'est pas un chef-d'œuvre, mais si vous tombez sur elle, n'hésitez pas, feuilletez-la, lisez-la un peu attentivement. Voilà, ça fait partie de ces ouvrages dont on se dit, je suis content de l'avoir lu, mais évidemment, je ne mettrai pas ma main sur le bio en réclamant qu'on me la coupe si jamais les gens ne l'achètent pas. Voilà, c'était nos deux premières bandes dessinées. Et donc, il va y en avoir évidemment deux autres tout à l'heure. J'en profite pour vous dire que chaque semaine, vous êtes 1 million à écouter Radio Courtoisie, 1 million de personnes qui nous écoutent. Évidemment, c'est flatteur. On a 5% d'audience, 5,2% d'audience, je crois, sur Paris, région parisienne. Voilà, donc on est juste un peu en dessous de Europe 1 avec ses 6,1. Donc voilà, c'est une radio qui compte. Vous êtes plusieurs milliers à nous financer, eh bien, n'hésitez pas, rejoignez la cohorte de ceux qui financent Radio Courtoisie, de ceux qui permettent que cette aventure continue, de ceux qui permettent que ces émissions soient réalisées, de ceux qui permettent à Valérie Daubigny de faire un excellent journal sur l'éducation, de ceux qui permettent à Pascal Maurer de faire un excellent journal sur l'exploration, à la fois physique et spirituelle. Voilà. Il y a des dizaines, des centaines d'heures qui sont produites. Voilà. Si vous avez envie d'être le 18 001e financeur de Radio Courtoisie, donnez-nous 1, 2, 5 euros. Voilà, c'est parfait. Vous faites partie de la cohorte de ceux qui sont pour la liberté d'expression. On va enchaîner avec une autre bande dessinée qui, en revanche, nous a un peu déçus, qui est Off, et c'est Christol Sieck qui va en parler.
Merci Richard, j'entendais beaucoup de cette bande dessinée Off. Ceux qui m'écoutent savent que j'aime beaucoup les récits d'anticipation et toi aussi, je crois, Richard, les utopies, notamment également les dystopies, les récits qui annoncent un avenir sombre. On a tous lu Le meilleur des mondes, Fahrenheit 451, 1984. On a tous lu Ravage aussi de Marjavel. Commençons par rappeler que dans Ravage, écrit en 1943 par Barjavel dans Je suis partout, dirigé à l'époque par Brasillach, ce qui a levé quelques ennuis à la Libération, mais il a dit vite disculpé. Eh bien, Barjavel imaginait qu'en France, il n'y avait plus d'électricité. Plus rien ne fonctionnait donc, il fallait retourner au monde rural, et Barjavel prenait le parti de dire beaucoup de bien du héros François, qui, lui, prônait un retour à la terre, et on admirait ce chef ancestral qui, par son autorité, faisait régner une nouvelle civilisation agricole. Et pour Barjavel, c'était bien. À l'inverse, lorsque Jean-David Morvan a adapté la bande dessinée Ravage il y a 5 ans à peu près en bande dessinée, c'était une déception puisque le héros qui voulait un retour à la terre devenait fou. Un malade mental qui ne rêvait que de pouvoir et de guerre. Et là, en fin de compte, on a de nouveau un récit qui n'est pas une adaptation de Barjavel, de Ravage, mais on retrouve la même idée de départ. Il y a une coupure d'électricité sur la planète entière. On nous explique que cette coupure est due à une irruption solaire qui détruit tout ce qui est électrique sur Terre. Et donc, il faut continuer à vivre et à se débrouiller. Imaginons que ce n'est pas facile, puisqu'aujourd'hui, l'eau qui sort du robinet, elle arrive grâce à des pompes électriques. La nourriture, les supermarchés, eh bien, imaginons que sans électricité, sauf si on habite à la campagne, c'est difficile de s'en procurer. Comment bâtir une nouvelle organisation de société avec ceux qui décident, ceux qui obéissent, les échanges? Il y avait énormément de thèmes à explorer. Est-ce qu'on peut créer de nouvelles sources d'énergie? Pourquoi pas? Et toutes ces idées-là ne sont pas du tout étudiées ou seulement à la surface. Puisque cette bande dessinée se focalise sur un thème central qui est,
L'extrême
Richard, je
droite.
te laisse deviner, le...
L'extrême droite. Au hasard.
Non!
Ah, zut.
L'inverse. Pas l'extrême droite, la droite extrême.
Ah, pardon.
Effectivement, effectivement, c'est pas l'extrême droite, puisque dans ce récit, le méchant est le chef du parti de droite qui veut s'allier avec l'extrême droite. C'est si vrai que lorsque l'avion dans lequel il y avait le roi de Belgique se crash et donc le roi est mort, eh bien, ce chef de la droite extrême, si vous me suivez, ne fait même pas alliance avec l'extrême droite, mais bâtit lui-même un nouveau parti en utilisant des radios pour convaincre les gens que le pouvoir en place est néfaste. Et petit à petit, cet homme-là parvient à ses fins à prendre le pouvoir. Et ça devient le thème central de cette bande dessinée. C'est un pavé, cette bande dessinée. Elle fait 350 pages. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir que le scénario devait faire l'objet d'une série télé en Belgique. Il n'y a pas eu les moyens. Donc après, ils ont eu l'idée de faire 3 tomes, puis après un seul tome, un pavé de 350 pages. Donc on a le plaisir de passer plusieurs soirées à lire cette bande dessinée-là. De moins en moins, lorsqu'on se rend compte qu'on se focalise sur cette thématique, et il y en a un, je pense, qui n'est pas très heureux, c'est celui qui sert de modèle au chef de la droite extrême. C'est tout simplement le chef du parti belge, le Vlaams Belang. Je le prononce peut-être mal, le Vlaams Belang, pardon, Tom van Grieken, qui sert de modèle pour dessiner le héros de cette, enfin le méchant de cette série-là. Et quand les scénaristes parlent de cette personne-là, ils expliquent que c'est un nationaliste d'extrême droite. Donc tout, on a tout compris. On est passé d'un thème passionnant, comment survivre lorsqu'il n'y a plus cette source d'énergie formidable qu'est l'électricité, comment survivre, à la thématique actuelle. Les scénaristes, qu'on ne savent plus quoi dire, on parle de cela, le danger de l'extrême droite. Bon, c'est dommage.
Alors, c'est dommage, mais évidemment, la bande dessinée est saluée par les gens intelligents. Cette fable politico-humaniste ne se lâche pas une fois entamée, avec un scénario haletant et un dessin à la fois suffisamment réaliste pour faire froid dans le dos et aventureux pour se laisser guider.
France Inter.
Non, moustique. Voilà.
Ah, France Inter a beaucoup aimé.
France Inter a beaucoup aimé, ben nous sommes ravis. Off présente une densité narrative et graphique déconcertante, malgré une pagination très généreuse qui aurait pu laisser craindre une, pardon, une dilution des enjeux. Bravo et merci. Ça, c'est DBD. Donc, voilà. On est effectivement effondré. Les bandes dessinées post-apocalyptiques, c'est un genre qu'on connaît, qui était né il y a longtemps. C'est presque consubstantiel à la bande dessinée du XXe siècle. Il y a eu de très belles bandes dessinées post-apocalyptiques dans les années 70, comme par exemple Simon Dufleuve, dont on a déjà parlé, ou bien la série Jérémia, qui continue. Et ce qui est amusant, c'est que Herman, qui en est à son 40e album, de Jérémia, présente évidemment une société totalement fragmentée, avec les riches qui oppriment les pauvres, mais lui-même a peu à peu dérivé, et donc son héros, moitié justicier solitaire, moitié misanthrope, passe sa vie à se comporter comme un vigilante à la Charles Bronson. Et donc, on voit bien que la thématique est riche et que la façon qu'on a de réduire, si j'ose dire, une catastrophe technique et technologique à l'accession au pouvoir de l'extrême droite, comme si d'ailleurs dans le monde, on n'avait pas vu ce que les catastrophes réussissaient à produire généralement comme accession au pouvoir. C'est plutôt des dictatures d'extrême gauche d'un pôle à l'autre et sur les deux hémisphères. Et on est effondré effectivement du manque d'imagination de ceux qui ont concocté cette bande dessinée. et qui en plus l'ont concocté longtemps. Alors, par contre, il y a quelque chose qui est amusant, c'est que de même qu'on se retrouve avec une série télévisée avortée qui devient un album de bande dessinée, on se retrouve parfois avec un film avorté, comme le film de Jodorowsky, qui était censé être l'adaptation de Dune et qui a donné lieu à L'Incal. Et donc parfois, le film raté donne une très belle saga dessinée. Voilà, L'Incal de Jodorowsky et Moebius est un petit chef-d'œuvre, évidemment aberrant à bien des égards avec l'imagination tordue mais flamboyante de Jodorowsky. Et alors que là, vraiment, l'idée, c'est on a une très bonne idée et on ne réussit pas à la finir et on se retrouve en fait à retomber dans les ornières narratives les plus plates. C'est d'un dommage absolu.
Alors, si je peux ajouter, il y a d'autres ressorts dramatiques à l'heure du jour. Nous avons également la Russie qui est aux portes de la Pologne pour l'envahir. Et nous avons également l'héroïne, la gentille première ministre social-démocrate, qui, atteinte d'un cancer en phase terminale, demande à sa maman chérie de l'euthanasier.
Ah, très bien. Voilà, bon, effectivement,
On coche les cases.
ce serait dommage. Oui, c'est ça. C'est un peu dommage qu'il n'y ait pas deux ou trois amours homosexuels, ce qui permettrait de faire en sorte que le tableau soit complet. On aurait coché toutes les cases de la bande dessinée courageuse et citoyenne. Et là aussi, c'est absolument terrible de se rendre compte il y a des gens qui, en fait, ne pensent plus par eux-mêmes et qui se contentent de recycler vraiment la doxa habituelle. Et ils le font avec un talent narratif certain, en tout cas pour le début de l'histoire. Ils le font pour le dessinateur avec un talent graphique certain, mais on se retrouve à avoir de la bouillie de chat, ce qui est vraiment pénibilissime. Je crois qu'il nous reste 4 minutes. Je vais en profiter pour vous parler d'une bande dessinée qui, elle, est totalement surprenante et qui mériterait qu'on ait passé moins de temps sur off, mais néanmoins. Voilà, c'est Objectif 2027 de Marceau, sur une idée de Laurent Obertov aux éditions Magnus. C'est assez simple. Laurent Obertum et Marceau imaginent que Adolf Hitler ressuscite et se présente aux élections françaises pour la présidentielle de 2027. Je vous laisse imaginer la manière dont l'album est conduit, c'est-à-dire évidemment. Alors pourquoi est-ce qu'il ressuscite? Parce que en enfer, le diable n'en peut plus. Hitler est si célèbre que. Disons, un climat de gentillesse et d'émulation s'est installé parmi les damnés. Et le diable qui est là pour les faire souffrir se rend compte qu'ils sont tous tellement fascinés par Hitler et sa réussite dans le mal que voilà, ils en oublient de souffrir. Et donc, ils décident pour punir Hitler, voilà, qui est raciste, qui est antisémite et qui a 1000 défauts, on va l'envoyer à Paris en 2026-2027 pour qu'il comprenne bien sa douleur et qu'il comprenne bien à quel point son projet de Troisième Reich a échoué. Et Hitler, du coup, devient une espèce de candidat improbable à la présidentielle en croisant l'ensemble des partis politiques de l'extrême droite ou de la prétendue extrême droite à l'extrême gauche et avec une caricature absolument dantesque de la vie politique française, une caricature féroce des médias français et une vision désespérée, sale et vulgaire de la réalité française. Voilà, on est vraiment au sein de l'univers de Marceau. Il n'y a vraiment pas un personnage à sauver. Il n'y a pas un homme ou une femme politique qui ait une quelconque valeur aux yeux d'Hitler ni aux yeux des Français. Et je vous passe les rebondissements qui sont évidemment à la fois drôlatiques, caricaturaux et effrayants, avec une série de blasphèmes républicains, évidemment, à chaque page. Il y a un avertissement qui explique tout au début de la bande dessinée que cette farce dessinée à gros traits, enfin, je parle du scénario parce que sinon le trait de Marceau est au contraire extrêmement fin et léché, enfin, ben, quand il n'est pas en train de présenter quelques abominations, c'est une espèce d'ovni. Voilà, le seul album auquel je puisse le comparer pour la charge caricaturale, c'est Hitler égale SS. De Yann Evuillemin, qui avait été publié dans les années 80-90 par l'Écho des Savanes. et qu'il a aussi été absolument renversant de politiquement incorrect. Voilà. On a avec Objectif 2027 l'équivalent pour notre 21e siècle commençant. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci Christol d'avoir été là. Et je vous dis bien sûr à la semaine prochaine.